les podcasts de Radio Vatican.
Première enquête réalisée en France sur le sujet. Le titre du livre pour Dieu est « Le sacré incestueux ». Il explore les dimensions culturelles, sociales, juridiques, religieuses et anthropologiques du scandale de la pédophilie des prêtres. S'appuyant sur les témoignages de religieux, de victimes, de leurs familles, de responsables, cette enquête interroge, déplace les lignes, bouscule le lecteur dans sa compréhension du phénomène. Nous avons interrogé l'un des trois auteurs, Olivier Bobineau, en lui demandant de nous exposer ce qu'il entend par cette crise de sens et ce scandale absolu.
Première chose, la pédophilie étant un acte qui aboutit à l'abus sexuel d'un enfant, cet acte commis par un prêtre est le choc de deux sacrés. Le choc, première figure du sacré, qui est le prêtre, l'homme de Dieu. Et cette figure, dont la légitimité vient d'en haut, par ailleurs, commet un acte sur un enfant qui est la figure sacrée de la société moderne. Au fond, quand un prêtre abuse d'un enfant sexuellement, c'est deux sacrés. Celui qui vient de la société ancienne, qui abuse de la figure sacrée de la société moderne, dont la légitimité, elle est, si vous voulez, démocratique. Et c'est ça qui est un premier élément du scandale. Contrairement à un instituteur, par exemple, également, il y a de la pédophilie dans les institutions publiques. L'instituteur n'est pas la figure du sacré de la société ancienne.
Vous expliquez dans votre livre que considérer seulement le prêtre pédophile comme seul responsable, c'est pas non plus la solution. À la page 220, et vous citez René Girard, ça serait trop facile aussi quelque part d'en faire le responsable et un bouc émissaire. Et en même temps, vous dites bien qu'il y a une crise au niveau de la formation du prêtre.
Finalement, il y a deux thèses. La première serait de dire la pédophilie, c'est une affaire strictement personnelle. Le pédophile est un traumatisé qui a eu un traumatisme durant son enfance, il est malade. Ça s'appelle les pédophiles fixés. Et puis, il y a aussi une autre thèse qui avance des psychiatres, mais qui aussi avance des sociologues, des philosophes, c'est que c'est un individu seul, mais qui est dans un environnement. Et en fonction, à un moment donné, de certains environnements, eh bien oui, il y a un passage à l'acte. Ça s'appelle les pédophiles régressifs. Et nous, notre thèse, ça a été de travailler sur cet environnement. Y a-t-il des facteurs dans l'environnement qui favoriseraient le passage à l'acte? Notre réponse est oui. Et notamment, la deuxième thèse forte donc, de notre livre, c'est de dire qu'on a affaire, dans l'acte de pédophilie d'un prêtre, à l'encontre d'un enfant, on a affaire à un inceste. Qu'est-ce que c'est que l'inceste? L'inceste, c'est une relation illicite entre parents. Mais le prêtre n'est pas le père de l'enfant. Précisément, quand les anthropologues parlent d'inceste, ils parlent de l'autorité paternelle. Or, quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que l'Église catholique, à partir du 2e et 3e siècle, va décliner au fil de sa hiérarchie, tout un langage de paternité. Le papa, le pape. Puis ensuite, il y a les évêques qu'on appelle monseigneur. Ensuite, il y a les pères de la foi. Également un prêtre, on l'appelle mon père. Et dès lors que des hommes se réclameront de l'autorité paternelle, si en plus ils ont le titre de père, eh bien oui, ils ont les pleins pouvoirs. Ils ont plein de pouvoirs. Et comme ils s'appellent père, contrairement à la prescription de l'Évangile, eh bien oui, pour nous, c'est un environnement qui peut favoriser un abus de pouvoir. Ce qu'est la pédophilie.
Qu'en est-il des victimes?
Nous faisons deux propositions fortes. La première, c'est un ministère pour les victimes. Un ministère, c'est-à-dire une structure forte qui prenne en compte, d'abord qui écoute les victimes. Parce que dans les évêques que nous avons rencontrés, il y en a qui disent non, on ne fait pas ça. Il y en a d'autres qui disent mais si, on va les écouter. Donc d'abord, écouter les victimes qui ont le sentiment de ne pas être écoutées. Tous les évêques ne sont pas attentifs, ne sont pas à l'écoute des victimes dans leur diocèse. Ensuite, ce ministère des victimes permettrait aussi aux victimes de faire qu'ils soient accompagnés dans le cadre spirituel. Parce que toutes les victimes ont à un moment donné perdu la foi. Toutes les victimes ont fait confiance à cet homme de Dieu qui devait être leur père, qui finalement les a violées. Et en troisième et dernier lieu, un ministère des victimes qui permettrait aussi d'implanter en procès des prêtres. Oui, les victimes ont besoin d'un soutien juridique. Et oui, il est du rôle de l'Église d'accompagner des croyants qui, à un moment donné, ont été blessés au plus profond d'eux-mêmes. Et la deuxième proposition, c'est qu'il ne faut pas oublier en même temps les prêtres bourreaux, les criminels. Eh bien, ceux-ci aussi ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'il ne s'agit pas de les mettre n'importe où. Il s'agit de les aider, pas d'un point de vue simplement psychologique, mais social, pour qu'ils soient réintégrés. Parce que souvent, ils ont perdu leur métier, leur vocation, leur revenu. Ils ont eux aussi besoin de soutien.
Merci Olivier Bobineau.
Des propos recueillis par Sœur Catherine Aubin.